je vous propose pour cette dernière table ronde de ce colloque, donc de maintenant céder la parole donc, aux intervenants que je vais présenter rapidement. Donc, tout d'abord, Judith Klein, qui est chef du Bureau de l'égalité des discriminations à la Direction générale de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Alors, je l'ai fait voilà, pas forcément dans l'ordre alphabétique, mais François Jouan, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et qui est un représentant des sciences dures dans ce panel, donc qui nous parlera plutôt de ses expériences en tant que spécialiste des questions et notamment tout ce qui est lié aux neurosciences. Et puis Bernard Mossé, donc, qui est un jeune retraité actif, ancien responsable pédagogique et scientifique de la Fondation du Camp des Milles, Fondation Mémoriale du Camp des Milles, et qui est également président d'une association, donc de l'association du projet de la Villa Herbel. Peut-être qu'il nous en dira un mot aussi, s'il le souhaite, mais peut-être plutôt de son expérience au Camp des Milles. Voilà, je cède la parole à Judith Klein que je remercie.
Merci beaucoup Mathias, et merci aux organisateurs, aux organisatrices du colloque. Alors c'est jamais très simple d'arriver dans la dernière table ronde, mais en tout cas, je trouve que la question de l'accueil des publics scolaires a été abordé juste en conclusion, et ça faisait une transition parfaite à l'occasion, enfin dans le cadre de la table ronde précédente. Je vous remercie de l'invitation que vous m'avez faite, et je voudrais tout simplement commencer par une précision. La table ronde s'intitule « Accompagnement pédagogique et réception des expositions antiracistes ». Alors, d'abord, il ne s'agira pas uniquement des expositions antiracistes, mais en tout cas des expositions qui donnent à voir, et ça, je crois que les deux journées de colloque l'ont montré, le racisme et l'antisémitisme. Et au-delà de ça, en réalité, de la manière dont dans une collection, puisque ce sera l'essentiel du propos de Peggy Derder pour le musée du Quai Branly, on peut accueillir des publics jeunes, des publics scolaires, et on peut concourir à la lutte contre le racisme et à provoquer un certain nombre de questionnements sur les idées reçues sur les cultures dont on sait qu'elles sont, elles font le lit d'une pensée raciste et notamment chez les jeunes et pas uniquement chez les jeunes. Cette table ronde, à mon sens, et pour le ministère que je représente, elle est très importante parce qu'elle va donner la parole à des représentants des services pédagogiques d'établissements culturels. Alors, vous l'avez dit, hein, Mathias, le mémorial du Camp des Milles et le musée du Quai Branly. Et par là, alors on resserre probablement un peu la focale, mais la table ronde invite à se pencher sur l'action pédagogique que mènent ces lieux de culture, ces lieux de mémoire, qui est une action essentielle, qui s'adresse au public scolaire et plus largement à tout public jeune et à tout public, qui s'adresse aussi à des enseignants, parce que ce sont des lieux de formation, et tout ça en complément des enseignements et en lien avec les programmes. En réalité, moi, ça m'a invité à réfléchir, pour dire ces quelques mots d'introduction, au sens de mon travail au ministère. Alors derrière l'intitulé du bureau, bon, j'ai la responsabilité, bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. En réalité, il y a l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme, puisque le bureau est une structure au sein du ministère qui est notamment chargée de coordonner la mise en œuvre des plans nationaux de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et d'être une structure interlocutrice de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et comment contribuons-nous ? En réalité, au ministère, on a pour mission d'organiser le cadre dans lequel se mène une éducation contre le racisme et l'antisémitisme, à la fois en menant une éducation à la citoyenneté et en l'occurrence en œuvrant dans le champ de l'éducation dite artistique et culturelle. Et cette partie de la politique publique d'éducation ne peut pas se faire sans les partenaires, et notamment les partenaires que sont les établissements culturels, les lieux d'histoire et les lieux de mémoire. Et comme y invite le plan de la DILCRA, juste pour mémoire, pour celles et ceux qui le connaissent bien, et puis pour le dire pour celles et ceux qui le connaissent moins bien, une des mesures de ce plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour éduquer contre, contre les préjugés, c'est d'encourager la construction de partenariats entre des établissements scolaires et des lieux d'histoire et de mémoire. Alors, de quoi on parle quand on parle de l'accompagnement pédagogique et la réception des expositions? À mon sens, on parle de la manière dont, du point de vue de l'enseignant ou de l'enseignante, on se fonde sur des sorties scolaires, dites sorties scolaires culturelles, qui offrent des conditions d'apprentissage particulières en dehors de la classe, dans un lieu nouveau, dans un lieu dont les élèves font l'expérience et même l'expérience sensible, et dont, bien entendu, on recherche à la fois, comme enseignant, du côté de l'enseignant ou d'enseignante, et comme médiateur ou médiatrice, que ces lieux et cette visite ne les laissent pas, ne laissent pas les élèves indifférents, ou ne laissent pas les visiteurs jeunes indifférents. Le sujet est très vaste, j'ai cité le point de vue des enseignants, on ne va pas l'aborder, mais c'est vrai qu'il y aurait probablement tout un champ de discussion et d'exploration sur la manière dont on prépare une visite, dont elle se déroule, on en exploite ce qui s'y est produit une fois de retour en classe, comment cette visite trouve des prolongements, nourrit les apprentissages, à moyen et parfois à plus long terme, notamment à plus long terme, et je pense que Bernard Mossé en dira un mot, quand des liens sont établis de manière durable entre des établissements scolaires et des établissements culturels. Alors, ça ne signifie pas du tout que dans cette table ronde, on va laisser de côté la question primordiale, qui est en fait la question du temps de l'éducation et du temps de l'apprentissage, hein, qui n'est pas le temps de la visite et de la présence dans le musée. Notamment, je pense que ce temps-là, c'est une réflexion nécessaire parce qu'elle n'est elle est pas très éloignée, me semble-t-il, de la mission des musées mémoriaux, des lieux de culture, d'installer durablement chez les jeunes publics notamment, une familiarité avec des lieux de culture, une capacité, un désir des jeunes de s'y rendre indépendamment du cadre scolaire, de s'y sentir à sa place et de s'y sentir légitime sur des questions qui ont été mentionnées au cours des deux journées. Voilà, ça c'était quelques réflexions liminaires. Je voudrais pas, je vois qu'on est déjà en retard, je voudrais pas traîner, donc je passe la parole à Bernard Mossé que vous avez présenté, Mathias. Alors, le président fondateur du Camp des Milles, du musée mémorial du Camp des Milles est intervenu hier, mais aujourd'hui, ce que vous allez développer, Bernard Mossé, comme propos, c'est vraiment comment le modèle didactique du Camp des Milles a été conçu et comment vous accueillez les publics, et notamment les publics scolaires. Merci.
Merci à vous, merci à Judith, merci à Mathias pour cette invitation. Oui, évidemment, quand le projet d'ouverture du Camp des Milles s'est mis en place, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années maintenant, c'était une des questions au centre, hein, comment mettre en place une action pédagogique qui permette de lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, la première réponse sur un lieu de mémoire lié à la Shoah et à la Seconde Guerre mondiale, hein, qui est en fait le seul camp d'internement et de déportation français encore ouvert, accessible au public aujourd'hui, la première réponse, c'est de raconter l'histoire de ce qui s'est passé dans ce camp, qui a vu l'internement de sujets ennemis, d'étrangers indésirables et finalement la déportation de 2000 juifs vers Auschwitz, dont pratiquement aucun n'est revenu. Donc c'est de raconter l'histoire. Mais pour reprendre ce qu'a dit Karima tout à l'heure, là aussi c'est un sujet extrêmement documenté, la Shoah, la Seconde Guerre mondiale. La connaissance scientifique n'arrête pas de progresser sur ces domaines-là et ça n'empêche pas l'antisémitisme, les racismes de progresser en France. Malheureusement, je vous montrerai un graphique tout à l'heure, mais qui montre que… on s'est dit, peut être fait sur un site mémorial de plus que ce qui a été fait jusqu'à présent, qui est de raconter l'histoire de ce site et de renvoyer aux leçons qu'on peut en tirer. Et donc, effectivement, on a réfléchi à un modèle didactique dont je vais essayer de parler le plus rapidement, succinctement possible, avec un écran partagé. La première réflexion, et je vais centrer mon propos là-dessus, c'est sur l'organisation de la muséographie elle-même. Hein, une muséographie qui est en temps normal, hors Covid, est visitée par 130 000 visiteurs par an, dont la moitié de scolaires. Ou de scolaires ou de jeunes de l'éducation informelle, non formelle. Et donc, cette muséographie a été pensée en trois volets. Un volet historique qui raconte l'histoire du camp des Milles, mais plus généralement des années 20 et 30, puis de la Seconde Guerre mondiale à travers, et de la Shoah à travers l'histoire du camp des Milles. En deux dispositifs sur les années 20 et 30 et puis un dispositif sur la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Un volet mémoriel, donc dans un parcours très linéaire où on peut parcourir les espaces tels qu'ils étaient, pratiquement tels qu'ils étaient, puisque le camp des Milles est une ancienne usine qui a repris son activité après-guerre et on peut traverser ces espaces d'internement à l'époque pratiquement dans les mêmes représentations, en tout cas dans les mêmes espaces qu'ils sont aujourd'hui. Et enfin, dans un espace, un volet qui nous semble, qui nous apparaît comme unique au monde sur un lieu de mémoire, où on donne les clés de compréhension de comment une société, étape par étape, en arrive à perpétrer un crime de masse, en arrive à perpétrer un génocide, en s'appuyant là sur les génocides du XXe siècle. Alors peut-être que pour bien comprendre ce dispositif linéaire des espaces, je reviens rapidement sur les trois périodes du camp des Milles qui sont en fait le cœur de la réflexion. Parce que le camp des Milles, qui a été ouvert en septembre 1939 au moment de la déclaration de guerre, s'est ouvert pour interner les sujets ennemis, autrement dit les Allemands qui sont sur notre sol. Et donc, on interne en fait, en très grande majorité, des anti-nazis qui fuyaient le régime nazi et qui pensaient trouver refuge dans la patrie des droits de l'homme. Donc, ça, c'est la première fonction, la première étape du camp des Milles. Après la défaite, le régime de Vichy y a interné les étrangers indésirables. Il y a cette fois-ci 40 nationalités qui sont internées là. On est passé d'une logique militaire à une logique policière. Il faut se débarrasser de ces étrangers qui salissent la France, qui sont responsables en partie de sa défaite et qu'il faut neutraliser. Et enfin, toujours sous l'autorité du régime de Vichy, le camp des Milles a vu la déportation, comme je l'ai dit, de 2000 juifs, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés à Auschwitz. Et donc, ce qui était important de dégager d'abord, c'est le fait que ce soit toujours sous autorité française, responsabilité de la France sur ce qui s'est passé au camp des Milles, donc dans la zone sud, mais c'était l'idée d'étape et de processus. Et c'est donc cette idée de processus qui fait le cœur scientifique et pédagogique de ce qui est montré au camp des Milles. Deux remarques sur ce parcours. La première remarque, c'est que le volet mémoriel, nous appelons le volet mémoriel, c'est-à-dire la traversée des espaces, est au cœur du dispositif. La mémoire est au cœur de ce dispositif. L'entrée sensible, l'entrée par la sensibilité, par la force du lieu, c'est une usine puissante, forte, et puis dans cet espace-là, on mobilise tous les attributs de la mémoire, des témoignages, des traces, etc. Mais on a voulu que cette entrée sensible soit encadré, on pourrait dire presque canalisé par l'approche scientifique. D'abord, l'approche historique, qui permet le minimum de connaissances pour mieux ressentir, pour mieux se représenter ce qu'a été cette période et l'histoire du camp des Milles à travers, pour l'illustrer. Et enfin, encadré par un volet réflexif dont je vais dire un mot. Pour ce qui est de son originalité et de la place qu'il occupe dans le parcours pédagogique. En fait, le cœur de ce volet réflexif, je vous l'ai dit, c'est de donner le schéma récurrent de comment une société, étape par étape, bascule jusqu'à perpétrer un génocide. Je sais que la question de pouvoir mobiliser les génocides du XXe siècle a été déjà en débat hier. Hein. Ça a été l'objet du débat. Il faut bien comprendre que l'idée, c'était que la Shoah permettait d'en tirer des leçons universelles et que pour les valider comme génocide paradigmatique, il fallait mobiliser les éléments communs avec les autres génocides du XXe siècle. Chaque génocide est unique, mais il est possible de dégager les éléments communs. Donc la caractéristique de cette partie-là, c'est d'être plurigénocidaire, mais aussi pluridisciplinaire. Ce ne sont pas seulement les historiens qui ont été convoqués, mais ce sont les anthropologues, les psychosociologues, ce sont les politistes, les philosophes qui ont permis de dégager ces éléments communs et d'en faire un schéma. Alors, ce schéma, vous l'avez sous les yeux, il est absolument illisible. Même lorsqu'on l'a en face de soi, ça a besoin d'un accompagnement. Mais vous en comprenez l'idée. L'idée, c'est que à partir d'éléments qu'on trouve dans toutes les sociétés, stéréotypes, préjugés, peur de l'autre, rejet de l'autre, il y a des mécanismes qui peuvent s'enclencher à partir de crises multiples, et notamment des crises sur lesquelles s'appuient des minorités extrémistes qui peuvent accéder au pouvoir, et dans ces cas-là, ça peut aller jusqu'à un crime de masse. On est là, non pas dans un schéma linéaire, comme cette arborescence le dit, on n'est pas non plus dans un déterminisme, on est dans la contingence, on est dans la récurrence aussi. Bien sûr, ça peut se passer autrement, ça peut prendre d'autres chemins, c'est ce que dit cet arbre, mais ce que nous dit l'observation, l'analyse des génocides du XXe siècle, celui des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, celui des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, celui des Tutsis au Rwanda plus près de nous en 1994, c'est qu'il y a des éléments communs qui peuvent aboutir à un crime de masse. Et en fait, du point de vue pédagogique, une fois ce parcours, on a suivi ce parcours, du point de vue pédagogique, si vous voulez, on retourne ce schéma en disant, voyez jusqu'où ces éléments, antisémitisme, stéréotypes, préjugés, peuvent aller. C'est aujourd'hui qu'il faut lutter contre ces éléments-là. Et c'est un pari qu'on avait fait, pédagogique, et c'est un pari qui s'avère extrêmement efficace. Il s'avère efficace notamment parce que, on l'a évoqué tout à l'heure, on est sur ce que nous appelons la convergence des mémoires. On lutte contre la concurrence victimaire, contre la concurrence des mémoires, à travers cette mise en relation de diverses histoires dramatiques, et en même temps, en renversant le schéma, en disant « regardez, il faut lutter contre les stéréotypes », ça permet de faire converger et de faire en sorte que chacun se sente concerné, soit comme victime, soit comme auteur de discrimination, de propos racistes, de propos antisémites. Donc, ça répond aussi un peu à la question qui a été posée tout à l'heure, hein, de comment faire converger c'est la lutte contre les racismes. C'est un des outils, ce n'est pas le seul modèle, mais c'est un des modèles, et il me semble important de signaler que, encore une fois, en s'adressant à tous les publics, on s'adresse à des publics scolaires. On s'est tourné de manière très volontariste vers des publics scolaires qui ne venaient pas forcément au camp des Milles. On a fait en sorte qu'ils puissent, avec l'aide des collectivités, qu'ils puissent venir au camp des Milles. Je pense au quartier de la politique de la ville, je pense à d'autres publics qu'on touche, depuis les jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse. On intervient dans des prisons. On s'adresse aussi, on a des formations, 5 000 à 6 000 personnes chaque année, des forces de l'ordre, de l'armée, aussi bien des agents que des officiers. Alors, ce n'est pas simplement pour dire que notre champ de public est très vaste, mais c'est aussi un levier pédagogique. Lorsqu'on dit aux jeunes, par exemple, lorsqu'on parle d'expérience psychosociale, de soumission aveugle à l'autorité, qu'on parle de ces comportements qui peuvent favoriser ces engrenages, ce processus, donc on en vient à la question de la désobéissance, par exemple, nécessaire à certains moments, et qu'on leur dit, une fois qu'on a démonté ça dans des ateliers qui approfondissent ces questions-là, que ce discours, on le tient aussi face à des adultes et des adultes en charge d'autorité, ça a beaucoup de force, ça a plus de force encore. Je dis ça parce que c'est aussi une façon d'illustrer la complémentarité avec l'éducation nationale. Il y a une complémentarité qui a été évoquée par Judith, qui est celle de faire une visite, de sortir du cadre de la classe avec une parole qui n'est plus tout à fait celle de l'enseignant, tout en étant une parole pédagogique. Mais il y a aussi la force d'un lieu qui reçoit bien d'autres publics et qui légitime, si on veut, la parole du médiateur. Dans son propos et dans les messages qu'il délivre. Alors, oui, peut-être rapidement montrer des chiffres qu'on donne en fin de parcours, après cette étude du schéma qu'on décline, hein, qu'on approfondit. On donne ces chiffres dont je vous parlais tout à l'heure. Depuis une trentaine d'années, la montée avec des hauts et des bas, mais une tendance qui voit que les actes de violence raciste en France, ou xénophobes, anti-musulmans, antisémites, ont été multipliés par 5 en 30 ans. Donc, à la fois l'alerte et à la fois des analyses scientifiques, on a mis au point un indice. Là aussi, plutôt pour les lycéens, collégiens, un indice qui montre les risques pour la démocratie à partir du schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Là aussi, hein, toutes les sciences humaines et sociales ont été requises, avec 8 critères qui permettent de dire que les risques pour la démocratie en France, depuis une trentaine d'années aussi, ont été multipliés par 5. Le chiffre précédent fait partie des indicateurs qui compose cet indice hard d'alerte républicaine et démocratique en ce qui concerne la France. Donc voilà des points d'appui pédagogiques à partir d'un socle historique et mémoriel, montés en généralité à partir des génocides du XXe siècle, une montée en généralité à partir des sciences humaines et sociales qui permet non seulement un message, mais un modèle pédagogique, encore une fois, qui semble fonctionner. Alors, je vais passer sur les thématiques qu'on aborde dans les ateliers. Il y en a une dizaine. Je voudrais pas m'alourdir si vous avez des questions là-dessus. Donc, en fait, ce sont des thématiques qui approfondissent certains des thèmes qui sont abordés durant la visite. J'ai parlé par exemple, la question des expériences psychosociales qu'on décortique. On parle de la résistance par l'art aussi, qui était forte au camp des Mille parce que beaucoup d'artistes ont été internés. Ça fait le lien avec la Villa Herbel, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Alors, je voudrais finir par un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la chaire UNESCO que porte le camp des Mille avec Aix-Marseille Université et qui permet d'accomplir la chaîne du savoir qu'on a essayé de mettre en place depuis la recherche, avec un lien fort avec Aix-Marseille Université et ses laboratoires, un conseil scientifique qui a travaillé sur tout et qui travaille encore sur tout ce socle, et jusqu'à la diffusion grand public, avec ce dispositif de labellisation citoyenne mis en place dans le cadre de la chaire UNESCO d'éducation à la citoyenneté, soutenu par la DILCRA, dont il a été question tout à l'heure, soutenu par le défenseur des droits. On forme des référents de structure. Ça peut aller d'une école jusqu'à une ville comme une métropole de Lille, en passant par le monde associatif, culturel ou social. On les forme pour les accompagner dans une méthodologie de projet, pour les accompagner dans des projets concrets de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les extrémismes et les discriminations. Et c'est un dispositif qui permet d'accompagner une trentaine de structures chaque année. Tout à l'heure, Judith faisait allusion au conventionnement qu'on passe avec des établissements scolaires qui permet de s'inscrire dans la durée. Ce dispositif est un des moyens de valoriser, de labelliser ces équipes qui s'engagent de manière plus pérenne et plus profonde auprès du camp des Mille.
Merci beaucoup, Bernard Mousset. Dans nos échanges préalables à cette table ronde, vous me disiez aussi qu'un chiffre était assez éloquent, celui de 85% des établissements scolaires qui avaient organisé une première visite et dont les enseignants et les élèves inscrivaient dans la durée le principe d'une visite du camp des Mille. Je pense que c'est intéressant. Peut-être, j'ai une toute petite question avant de passer la parole à Peggy Lerder, juste que vous nous disiez à partir de quel âge vous accueillez du public jeune, et puisqu'on est sur l'accompagnement pédagogique d'une même exposition que visite des publics jeunes et des publics adultes, le schéma de... Le schéma d'enchaînement des effets, est-ce que vous le commentez de manière différente en fonction de l'âge du public? Et j'imagine que vous entrez dans un degré de complexité qui n'est pas le même avec des scolaires et avec d'autres publics que vous avez cités.
Merci de me faire préciser tout cela. Effectivement, ça a été un gros travail de fait avec des inspecteurs, avec des enseignants. On a un service éducatif conséquent. Il y a deux équivalents temps plein d'enseignants qui ont travaillé même avant l'ouverture, depuis 2009, l'ouverture est en 2012. Et donc, on a mis en place effectivement non seulement des ateliers différenciés suivant les classes, en gros élémentaires. Alors, élémentaire jusqu'au lycée. Effectivement, les premières classes les plus jeunes, c'est les classes de CM2.
CM2
et voilà, en fait, les classes qui viennent le plus fréquemment, c'est les CM2, les troisièmes et les premières terminales, parce que ça correspond au programme d'histoire, et même si de plus en plus on s'ouvre à des projets pluridisciplinaires. Et donc il y a des parcours adaptés spécifique, en gros, pour ces trois niveaux élémentaires, enfin, cycle 3 de le CM2, pour le collège et pour le lycée. Et effectivement, ce schéma qui est développé dans un film d'une vingtaine de minutes n'est présenté qu'à partir de la troisième. D'accord. Pour les classes en deçà, on a une sorte d'atelier qui clôt la visite et qui permet d'aborder ces notions-là de manière adaptée pour ces publics.
Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas s'il y aura des questions et si on aura le temps pour les questions, moi j'en aurai une au moins. Je vais quand même très vite, parce que j'ai peur de cette course contre la montre, passer la parole à François Jouan qui nous propose de faire un pas de côté qui a été longtemps le directeur d'un laboratoire travaillant sur les cognitions humaines et artificielles, et qui a notamment travaillé sur les processus d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, et qui maintenant mène des travaux dans le cadre d'un laboratoire des usages en technologie d'information numérique, la plateforme Lutin. Et quand je disais que François Jouan, vous nous proposiez un pas de côté, c'est que là, pour le coup, les outils développés ont pour objet, alors je le dis de manière très triviale, de saisir ce qui se passe dans la tête du visiteur, Sur le temps très court de la visite, au moment où on, de la rencontre avec l'œuvre ou avec l'objet exposé. Et par conséquent, comment on peut apprécier immédiatement la perception et la réception d'une œuvre. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Judith, pour la. L'introduction, effectivement, alors il faut que je réussisse à partager le bon écran. On n'a pas énormément de temps là, cet après-midi. Le LUTIN, c'est le laboratoire des usages des technologies en information numérique. C'est une structure qui est sous tutelle d'Universcience, de l'Université de Paris 8 et de mon établissement EPH-EPSL. On est situé physiquement à la Cité des Sciences. Alors c'est très intéressant pour nous parce que la Cité des Sciences c'est 4 millions de visiteurs par an et ça nous permet de cibler des populations comme on veut, des enfants, des adultes, des jeunes adultes, des moins jeunes adultes, des vieux adultes, etc. pour mettre en place des protocoles de recherche. Et c'est surtout un Living Lab européen. Alors, on a été le premier Living Lab en France. Le Living Lab, c'est intéressant parce que c'est un lieu qui est ouvert aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, aux étudiants, mais aussi aux citoyens. Et donc, on peut tout à fait monter des projets avec des gens qui veulent venir faire de l'expérimentation avec nous. Et on est très centré sur ce qu'on appelle les technologies cognitives, dont je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Donc, c'est 300 mètres carrés de locaux. C'est un équipement scientifique qui est mis à la disposition de tous, peu importe d'où viennent les gens. Il n'y a pas de chercheurs en titre dans cette plateforme, c'est une plateforme qui est reconnue par le ministère, le MESRI, mais il y a du personnel qualifié dans différents domaines que je vais vous montrer aussi dans quelques minutes. Donc, on a des salles d'expérimentation, des salles de réunion, etc. Et surtout, on est très reconnu pour ce qu'on appelle le eye tracking, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de mesurer l'activité oculaire de quelqu'un face à une scène ou à une œuvre. Je vais vous montrer des exemples. Alors, on peut avoir des systèmes totalement mobiles sur des petites lunettes, en réalité virtuelle 3D, ou carrément des systèmes de scène qui permettent de faire des mesures sur des grands tableaux, etc. Ce qu'on met à la disposition des gens aussi, c'est des choses qui permettent d'analyser le mouvement et la posture et de faire de la reconstruction 3D d'activités de gens. J'en parlerai à la fin de cette présentation parce que c'est lié à un projet qu'on est en train de faire. On développe nous-mêmes nos propres capteurs, enfin peu importe. On est aussi capable de faire de l'électrophysiologie au niveau, hein, on a des systèmes à 64 voies. Et en fait, c'est aussi disponible avec des gens qui maîtrisent l'outil et qui peuvent vous donner un coup de main. Dernière chose où on est assez balèze, c'est qu'on fait pas mal d'intégration de signaux physiologiques. Hein, alors, ça peut être de l'électrocardiogramme, des réactions émotionnelles, de la respiration, de la température. Et on est capable de les intégrer en fait, dans un même système, ce qui nous permet d'une certaine façon d'avoir des mesures indirectes d'une question qui a été posée tout à l'heure, qui est la question des imaginaires. Moi, je ne peux pas avoir accès directement aux imaginaires des gens, mais j'ai une façon indirect d'accéder à leur imaginaire. Évidemment, on utilise beaucoup de modélisation, de simulation d'intelligence artificielle. Je ne rentre pas dans le détail. On est très impliqué dans les aspects robotique et handicap. On a une tradition de collaboration avec les musées. Là, je vous ai cité quelques programmes dans des programmes européens qu'on a eus avec des partenaires de musées. On a travaillé avec le musée du Quai de Branly il y a quelques années, où il y avait des œuvres qui parlaient toutes seules. On avait fait ça avec vous. Et puis, on travaille beaucoup avec la Cité des Sciences dans l'école de médiation pour les médiateurs scientifiques. Donc, ce que vous avez ici, c'est un médiateur scientifique qui est en train de faire une présentation et on a enregistré son activité oculaire et on voit en fait où se porte son regard, où est concentré son regard. Donc on voit que de façon générale, elle travaille bien, sauf qu'il y a deux, trois personnes à l'extérieur de son champ de vision qui n'auront pas été captées. Alors, pour vous montrer, parce que c'est plus amusant, je vais vous montrer quelques exemples de réalisations qu'on a faites effectivement dans le cas de la cité. Alors, si voilà, donc là, je vais vous laisser regarder, puis je commenterai après. C'était à la Cité des sciences et sur une exposition de physique sur un moteur pas à pas. Donc le visiteur porte le casque, il est venu voir et le dispositif. Il y a plusieurs boutons, donc hop, il commence à appuyer, ça marche pas, évidemment, parce qu'il faut lire le mode d'emploi. Donc on va le voir un moment. Au bout, voilà, ça c'est yay. Donc normalement, il a regardé aussi son mode d'emploi avant, et puis il va se désengager progressivement de la situation et abandonner le dispositif. Alors ça, c'est des choses intéressantes parce que bon, celui-là, je vais le passer. C'est pas l'idée qui est derrière, c'est que quand vous concevez une exposition, vous avez des attentes évidemment en tant que concepteur d'exposition, mais en équipant vos visiteurs d'outils de cette nature, on peut savoir si effectivement ce qu'on avait conçu est bien perçu par le visiteur. Là, je passe sur celui-ci parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est le même principe, sauf que ce que vous avez vu sur le premier, c'est sur l'ensemble de l'exposition, donc là, on a le parcours complet du visiteur dans l'exposition. Et là aussi, c'est intéressant parce que ça permet de voir effectivement le temps que les gens ont passé sur une œuvre, le temps ou sur un objet, comment ils vont éventuellement y retourner ou pas y retourner. Donc, c'est plein de choses intéressantes. Celui-ci, c'est juste un petit exemple pour vous montrer du travail qu'on a fait dans le cadre des jeux vidéo. Où vous avez normalement des gamers, voilà, qui sont en train de faire un jeu où on doit abattre des monstres, etc. Et vous avez en même temps les signaux physiologiques qui sont enregistrés en temps réel. On couple tout ça et on a donc une mesure assez directe en fait des états émotionnels de joueurs vidéo quand ils sont dans un jeu de cette chose-là. C'est des programmes qu'on avait fait avec des éditeurs de jeux vidéo qui voulaient justement valider en fait le scénario du jeu pour savoir si ça correspondait bien à des surprises, à des situations de frayeur, choses comme ça. Alors, exemple plus intéressant pour nous, je vais le lancer et puis je vais l'arrêter un moment. Alors, c'est la façon dont on mesure l'activité. Voilà. Alors, je vais l'arrêter 3 secondes. C'est sur un tableau que vous connaissez certainement, qui est l'exécution de Lady Grey par Paul Delaroche, qui est une peinture tout à fait romantique, etc., qui est à Londres. Et on voit ici, il y a ces deux enfants qui sont en train de regarder ce tableau. Et il y en a un qui porte une lettre au kilométrique et qui dit à son copain: oh, t'as vu, c'est amusant, la mariée joue à Colin Maillard. Hein, donc, et alors on va voir après ce qui va se passer. Donc l'enfant explore, il a dit ça, et puis vous allez voir un moment, voilà, il va faire une relation entre la hache qu'on a vue ici, il retourne sur la hache, etc., et là voilà, il a fait la relation entre la tête et le bio, et à ce moment-là, il dit à son copain: ah non, ils ne vont pas jouer avec Colin Maillard, ils vont lui couper la tête. Donc, on a un accès direct à un moment, comment le gamin a compris la situation et comment il a construit sa représentation du tableau. Un peu ça, l'idée qui était derrière. Alors, dernière chose, c'est pareil, vous aurez le lien, etc. Ça, c'est un programme qu'on a lancé avec le ministère de l'Éducation nationale, d'ailleurs, qui soutient le projet, le finance, et avec des partenaires, le Tralalaire, le Charte et la plateforme, et puis le Collège de France, sur les travaux sur l'empathie. Donc, c'est un ensemble de dispositifs qui ont été conçus avec Alain Berthaus, qui permettent en fait de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de changer de point de vue, soit en réel, soit en virtuel. Alors, ça marche parce qu'on a dans le cerveau ce qu'on appelle les neurones miroirs, en fait, qui ont des propriétés intéressantes et qui sont à la base de l'empathie. Je donnerai juste un exemple très simple. Quand vous êtes un jeune adulte et que vous allez croiser sur un passage clouté une personne plus âgée, sans en avoir conscience, je n'ai pas dit que c'était inconscient, je dis bien sans en avoir conscience, en fait, vous allez modifier votre allure et vous allez réduire votre pas de façon à être en phase avec la personne qui est en train de traverser avec vous. Donc, en partant sur ces idées-là, avec le groupe d'Alain Berthaus, on a conçu un certain nombre de situations qui permettent, alors, essentiellement pour des enfants, c'est dans le cadre des programmes d'éducation civique et morale, de changer de point de vue, de se mettre à la place de l'autre et de désamorcer en fait un certain nombre de situations, de conflits, de préjugés, etc. Donc c'est un outil intéressant pour qu'on peut vous mettre voilà. Et donc on travaille aussi actuellement avec le musée Rodin. Là c'est la façon dont un professionnel est en train de regarder, d'analyser l'œuvre, une des œuvres de Rodin, et vous voyez qu'on peut faire des mesures extrêmement précises de les représentations, ou au moins une partie des représentations des visiteurs. Voilà. Merci beaucoup, et donc il faut que j'arrête ce truc-là.
Ce qui est intéressant, peut-être, c'est la question de l'empathie. Oui. Mais je me demandais comment on pouvait mesurer l'empathie.
Alors, comment on peut mesurer l'empathie ? Alors, on peut le faire.
C'est pas possible, c'est pour ça.
Non, c'est possible, bien sûr, c'est possible. On peut le faire avec de l'imagerie fonctionnelle. Il y a des situations qui sont très intéressantes. On connaît en fait les réseaux de neurones qui sont impliqués dans l'empathie et dans l'imagerie motrice. Alors, je vais donner un exemple qui va vous qui vous amènera à réfléchir aussi là-dessus. C'est des recherches qui ont été faites par des équipes finlandaises où ils prennent des gens qui sont mariés ou qui sont en couple, peu importe s'ils sont mariés ou pas, et ils font entendre à chacun d'un partenaire de façon indépendante quelque chose d'affreux qui arrive à leur partenaire. Donc, c'est de l'expérimentation, un peu comme vous parliez ce matin sur les expérimentations de psychologie sociale. Alors, c'est très intéressant, c'est que quand vous regardez les différentes zones du cerveau, notamment l'insula, l'amygdale et puis un certain nombre d'aires temporales qui sont impliquées, quand c'est la femme qui entend son compagnon se faire martyriser, tout s'allume, elle a une réaction empathique extrêmement importante, et quand c'est l'inverse, quand c'est le compagnon qui entend sa femme se faire martyriser, bah, ça s'allume beaucoup moins. Donc on a des façons... Voilà. Alors après,
on puisse généraliser à tous les hommes et toutes
non,
les
femmes. Non, mais c'est de façon sur le groupe qui a été utilisé sur cette manip, ça marchait quasiment dans tous les coups. Donc ça veut dire on a des accès qui sont assez directs. Alors évidemment, on peut pas mettre ça dans un musée parce que c'est compliqué de faire de l'IRM fonctionnel, mais les petits dispositifs dont je vous ai montré ce matin, tout à l'heure, marchent très bien. J'avais monté il y a quelques années une exposition avec le musée de Tatiou, qui est dans le Cotentin, une petite île où on n'a pas accès, on peut pas, sauf pour le musée. Et on avait construit une sorte de photomaton, parce que les responsables du musée voulaient savoir si deux œuvres qu'ils avaient choisies, qu'ils pouvaient décrire avec leurs outils de conservateurs, allaient donner des observations de telle nature chez les visiteurs. Donc, on a mis un photomaton. Donc, chaque visiteur rentrait au musée, passait dans le photomaton, on lui présentait les œuvres, on enregistrait son activité oculaire, puis repartait avec son petit tracé. On a vérifié qu'effectivement, les tableaux qui avaient été choisis, qui avaient des organisations géométriques particulières, étaient bien perçus comme ça par les visiteurs. Mais ça a tellement eu de succès que l'exposition a été prolongée de 6 mois. Parce que le côté ludique, en fait, et que les gens ressortaient avec leur tracé en disant « Ah bah oui, sur ce tableau-là, c'est bien ce que j'ai vu, et puis sur celui-ci, c'est bien comme ça que j'ai perçu », a super cartonné. Donc ça, ce n'est pas des choses difficiles à mettre en œuvre. On peut imaginer sur une exposition sur le racisme dont vous parliez tout à l'heure, d'avoir ce sort de photomaton où on présente un certain nombre de documents qu'on a identifiés, etc. Puis on regarde comment c'est fait. On peut associer ça avec les signaux physiologiques. On peut, sans aucun problème, c'est un peu l'idée derrière, quoi. Parce que bien sûr, l'IRM, ce serait très bien, mais bon.
C'est plus compliqué. Merci.
Après, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait, c'est que sur ces systèmes d'empathie, au moins de neurones miroirs et d'imagerie motrice, ça se met assez tôt en place chez l'enfant. À partir de 5 ans, ça marche. Donc, à partir de 5 ans, vous avez tout un réseau empathique qui a été mis en place et qui est fonctionnel. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer très tôt sur les aspects empathiques.
Merci.
Donc, non, la question ouverte par Annette Vivorca hier, et qui était aussi en réaction, je pense, à la fondation, au mémorial fondation du Camp d'Émile. Voilà, comment est-ce que finalement le musée devient une institution où les pédagogues prennent prennent une place de plus en plus importante, voire parfois une place prédominante. Quel est votre point de vue sur la question? Alors peut-être François Jouan d'abord sur la question de l'éradication de la haine raciale, s'il veut.
Alors, ça, j'aurais pas la prétention de savoir répondre à cette question. Hein. On n'a jamais eu vraiment l'occasion de travailler sur le sujet, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire, effectivement, en regardant avec des situations expérimentales, je dirais, si on a effectivement des marqueurs, des biomarqueurs qui apparaissent et qui pourraient être signifiants d'un certain nombre de réactions haineuses ou anti quelque chose. Donc, ce sera pas mon boulot, je vous le dis tout de suite. voilà, mais j'imagine c'est un champ de recherche qui pourrait être pris par des gens pour regarder un petit peu effectivement un certain nombre de. On peut s'amuser à jouer sur des variations thématiques pour faire apparaître des réactions plus ou moins marquées. Je pense que ce serait un beau travail pour des psychosociologues, quoi. Je pense armés avec l'utilisation d'outils. Moi, basiquement, mon métier, c'est de m'occuper de bébés prématurés, donc j'ai un peu loin. Voilà. Donc là, j'ai pas trop de problèmes de, j'ai pas trop de problèmes de comportement raciste ou anti. Voilà, c'est quand même un milieu un peu particulier. Mais c'est une question très intéressante et je pense que ce serait peut-être une bonne chose qu'au niveau du PIRA, il y ait quelque chose qui se lance là-dessus, hein, avec un appel d'offres et puis voir s'il y a des équipes de recherche qui pourraient être intéressées par.
Ben, pourquoi pas? Faut qu'on y réfléchisse, en effet.
Ouais, on en reparlera, hein, Régis. Okay. Okay.
Donc, je pense que c'est pour moi, Mathias, cette question, plutôt. En tout cas, je veux bien répondre.
Si tu souhaites y répondre.
Oui, et de manière très rapide.
Rapidement, par contre.
Je pense que, en ce qui concerne le musée ou le site mémorial du Camp des Milles, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu la constitution d'un socle scientifique extrêmement dense, réfléchi pendant une dizaine d'années, mais ce qui arrive, je suppose, dans beaucoup de musées, et que ça a donné plutôt une formation des pédagogues à ce socle scientifique. Je pense d'abord à la façon dont le travail s'est croisé avec l'éducation nationale, avec le service éducatif, mais je pense surtout à la formation des médiateurs. Il se trouve que j'en ai encore la charge, et c'est une formation qui est extrêmement dense en termes scientifiques, historiques, et reconnu par beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'historiens qui sont venus et qui ont reconnu que ce que nous appelons les médiateurs et non pas des guides, justement, grâce à cette formation, c'est une connaissance et une façon de transmettre avec une assise scientifique très forte. Donc moi, je dirais que ça, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe au Camp des Milles, où c'est la recherche qui infuse dans la pédagogie. Et la deuxième réponse là-dessus, c'est que je pense qu'Annette Vévurka visait le fait aussi qu'au Camp des Milles notamment, mais dans d'autres lieux, ça commence à infuser. On passe d'un socle scientifique historique et mémoriel à un socle SHS, sciences humaines et sociales plus généralement. Et je pense que, voilà, vous avez compris à travers le modèle didactique du Camp des Milles que j'essaie de montrer, que c'est un passage fort important, c'est un moment pivot vers la pédagogie, mais qui, là aussi, a une assise scientifique très forte et qui est d'autant plus complémentaire avec l'éducation nationale que des disciplines et des connaissances sont transmises qui ne sont pas dans le corpus de l'éducation nationale. Il y a une partie, on a vraiment essayer d'équilibrer ça entre ce qui correspond au programme, à ce que demande l'éducation nationale et ce qu'on apporte en plus, notamment même en termes disciplinaires, psychosociologie, droit, etc.
Merci beaucoup, Bernard.
Juste pour compléter, Mathias, si vous me laissez trois petites secondes là, complémentaires, je n'avais pas percuté tout à fait, vous m'avez posé la question, mais. Ce qui serait intéressant de se regarder aussi, c'est comment le racisme se construit chez l'enfant, et notamment sur le fait qu'on a des données maintenant qui montrent à la naissance. On est sensible au son de toutes les langues, donc ça c'est très bien, et puis on va perdre cette sensibilité très rapidement autour de 3 mois. Mais il y a aussi un truc que je trouve très intéressant, c'est les manips qui ont été faites sur ce qu'on appelle le other race effect, c'est-à-dire que quand vous naissez, si vous êtes européen et qu'on vous présente des séries de visages de japonais, vous allez identifier chaque visage comme étant quelqu'un de différent. D'accord, vous faites une quête. Donc, vous percevez la différence. Et ça, cette compétence disparaît très rapidement au cours du développement. À 9 mois, elle a disparu. Et le bébé devient sensible uniquement aux caractéristiques des gens qui l'entourent, c'est-à-dire ses parents, etc. Et donc, il y aura des jolis travaux à faire pour voir si, si on met de la variété autour d'un enfant, on maintient ou pas cette compétence qu'on a à la naissance d'identifier tous les traits des autres ethniques en mettant des traits différents. Voilà.
Alors là, je me permettrai de rebondir.
C'est bien.
Parce que je me suis intéressé il y a quelques années à cette question à travers les travaux d'un anthropologue cognitiviste américain, Lawrence Hirschfeld, qui a travaillé justement sur soi-disant, enfin, sur cette idée qu'il y aurait des sortes de modules, ce qu'il appelle la sociologie naïve, qui permettrait d'identifier des races. C'est son argument. Personnellement, je n'y crois pas, et je fais partie des gens dont aussi le regretté Georges Guillet-Escuré, qui est décédé il y a peu de temps. On avait écrit pour critiquer cette approche. Ça se base sur la théorie de la modularité, c'est-à-dire de… Enfin, là, je parle d'Hirschfeld. Hein, quels travaux, il y a peut-être d'autres travaux, mais ceux d'Hirschfeld, disons, c'est l'idée qu'il y aurait une biologie naïve, une sociologie naïve, qui serait un héritage de l'évolution intégrée à des noyaux neuronaux. Ça, c'est très critiqué. En fait, et personnellement, moi, je n'y adhère pas.
Non, mais je ne suis pas du tout sur cette position-là. Moi, ce que je décris, c'est des mécanismes de sélection qui existent au niveau des contacts synaptiques dans le cerveau qui seront responsables de ce type de changement de performance. On sait, dans le cas du langage, par exemple, tu as à la naissance, je dis, tu peux répondre au son de toutes les langues, parce que évidemment tu sais pas encore si tu vas naître à Paris ou à Pékin, et donc c'est un système adaptatif qui s'est construit in utero, et ça disparaît rapidement. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que ça a été montré par une équipe anglaise il y a pas très longtemps, que si on met de la variabilité de locuteurs autour d'un bébé à l'âge de l'apprentissage de la segmentation pour l'apprentissage de la parole et de l'écriture, il est beaucoup plus performant, plus il a eu de variété. Oui. C'est en ce sens-là. Moi, j'ai travaillé longtemps sur des modèles, je l'ai dit, je travaille sur les prémats, sur les nouveau-nés, j'ai beaucoup travaillé sur des modèles d'épigénèse. Et donc, cette idée, c'est de dire, si on a des moyens qui maintiennent la variété, est-ce qu'on fait perdurer ces mécanismes qui sont présents, qui sont des réponses, qui sont le résultat de notre histoire épigénétique embryonnaire. Voilà, c'était effectivement pas du tout la position d'Herschel avec laquelle je suis radicalement en
opposition. Oui, je comprends mieux, c'est tout à fait opposé, en effet.
C'était le point de vue du biologiste, là, si tu veux. Donc,
oui.
Mais c'est des vraies questions super intéressantes. Donc,
absolument.
Et le fait, moi j'imagine que faire des comparatifs, on sait par exemple très bien aussi que les enfants qui sont dans les crèches ont des systèmes immunitaires qui sont vachement mieux adaptés. On pourrait imaginer que des enfants qui sont dans les crèches avec des gens de différentes nationalités garderaient en fait une sorte de compétence à identifier l'autre comme étant un autre, même différent de soi, mais pas un étranger. Voilà, c'est ça l'idée que j'avais derrière.
Je comprends.
Donc, on en discutera. Ouais, ouais. On va faire un appel à projet là-dessus. Ce serait rigolo.
Très bien. écoutez, il me reste à vous remercier très chaleureusement. Alors, juste avant, une remarque effectivement qui nous vient d'Anne Moreau.
Merci, Mathias. Allez la lire.
D'accord. Bah, alors, Judith,
non, mais je t'en prie.
Ah bon. Voilà, non, effectivement, puisqu'on est sur la question de l'accompagnement pédagogique des expositions antiracistes ou autres, hein, de manière générale, effectivement, il y a un levier qui est tout à fait important, que sont donc les délégations à l'action artistique et culturelle, enfin les délégations académiques donc à l'action artistique et culturelle, donc au sein des rectorats. Et Peggy, Judith, Bernard aussi connaissent bien ces interlocuteurs qui sont très importants à la fois pour sensibiliser les enseignants dans le cadre de formation notamment, mais aussi et surtout, je dirais, pour accompagner les projets pédagogiques. Et c'est peut-être aussi une manière aussi de réfléchir à ce qui a été évoqué sur la question des temps, du temps de visite. Le projet pédagogique, c'est une temporalité qui est une temporalité autre, avec aussi des travaux d'élèves qui sont autres, hein, qui sont vraiment très souvent un moment d'enrichissement extrêmement important. Et donc, avec les musées et avec les DAC, donc, il y a cette possibilité de monter ces projets et aussi de mettre en lien avec des artistes. Voilà, donc il y a tout un ensemble de dispositifs et je vous invite vraiment à rentrer en contact avec ces DAC pour. Enfin, je m'adresse aux enseignants de la salle. Hein, pour.
Si je peux juste dire un petit mot, notre enjeu à la fois à l'échelle du ministère et dans les académies, c'est de faire en sorte que les DAC et les autres interlocuteurs et interlocutrices académiques qui travaillent en propre sur l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme travaillent ensemble quand ce n'est pas le cas. Il y a des collaborations déjà très, très fécondes dans un certain nombre d'académies, mais des habitudes de travail pour croiser des sujets, notamment celui du racisme et l'antisémitisme, c'est effectivement ce qu'on recherche et ce qu'on essaye de faire.
Merci.
Merci à toi, Anne. Écoutez, alors, je vous propose, parce que là, l'heure tourne, et puis je pense que on commence un peu à envisager le week-end ensoleillé qui se prépare. Donc, je vous propose tout de suite de passer à quelques mots de bilan pour cette journée. Pour tout vous dire, on attend toujours la présence, enfin, on ne sait pas si finalement M. Jean-Marc Ayrault pourra intervenir. Je ne le vois pas dans les participants, donc peut-être qu'il va arriver tel un Deus Ex Machina. Mais en tout cas, je vous propose, Régis, peut-être quelques mots de réflexion, enfin quelques mots de bilan, puis je compléterai éventuellement.
Moi, j'ai pris quelques notes. Pardon si ce n'est pas du tout exhaustif, hein, mais j'ai retenu quelques points, 7 points dans tout ce qui s'est dit depuis hier. D'abord, on a vu, disons, une analyse des dispositifs et des fonctionnements d'un certain nombre d'expos antiracistes avec Darius Tola pour le Pauline, Eddy Berg pour le Musée juif de Berlin, Lorraine Issa-Prinson pour le Mémorial Act, Nous et les autres avec Carole Reynaud-Paligo. Ensuite, on a vu éventuellement comment replacer ces expositions antiracistes dans leur contexte historique. Ça, c'est donc un premier point qui nous semble intéressant. On a vu également que toute exposition pouvait être confrontée à un certain nombre de difficultés, c'est-à-dire des groupes de pression ou bien même des résistances qui viendraient de l'État. Donc on a des avancées mémorielles et des résistances. Langanné avait évoqué ça dans le cas de la difficile évolution du Musée de l'Homme et la difficile, disons, le difficile passage sur la question de la génétique en fait, des populations et de la génétique moderne. Dominique Taffin avait, elle, parlé des avancées qu'elle avait obtenues pour sa Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Par ailleurs, un point qui est revenu régulièrement, c'est comment éviter la concurrence des mémoires, et ça, Pape Ndiaye y a insisté. Alain Chouraki, pour le camp des mines, a exposé, et donc tout à l'heure, Bernard Mossé a rappelé ce concept de convergence des mémoires, donc ce qui est tout à fait intéressant, comment éviter la concurrence, eh bien, on travaille à la convergence. On a également vu comment évoquer le racisme de façon détournée, c'est-à-dire sans véritablement le nommer, mais en travaillant à la mise en œuvre de la diversité, disons, ou la mise en exposition de la diversité. C'est le cas de l'Institut des cultures d'Islam. On a posé la question de comment montrer certaines images et jusqu'où montrer certaines images, jusqu'où on peut exposer des stéréotypes racistes ou antisémites. Daniel Soutif nous a dit que pour lui, il y avait une limite. Je crois que c'est Julia Perloni qui a estimé que dans certains cas, si on réexpose les objets, eh bien, on peut réitérer le racisme. Donc ça me semble tout à fait intéressant de réfléchir à la limite et également au contexte. C'est-à-dire qu'évidemment, l'objet ou l'affiche ou le stéréotype, tout dépend dans quel contexte on le ressuscite, entre guillemets, mais est-ce qu'il a un pouvoir en lui-même est-ce qu'il va être réitéré et jusqu'où? Donc ça, c'est une question tout à fait intéressante. Et le dernier point que j'ai noté, c'est il y a deux approches possibles. C'est soit l'approche en termes patrimoniaux ou bien mémoriaux, disons, ou alors une approche qui serait plus artistique et contemporaine. Et on a vu le cas avec Faisal Hussein pour les expositions contre le racisme anti-islam. Voilà, quelques points comme ça.
Merci. Moi, j'aurais pas tellement d'autres points. Simplement, juste pour compléter très rapidement ce qu'a pu énoncer Régis. Moi aussi, j'ai vu, disons, ce que je pourrais appeler une tension, ce qui avait déjà été évoqué par Judith Klein, une tension autour des collections. Ça a été assez présent aujourd'hui, et notamment tout ce qui est musée de collection versus musée ou mémoriaux ou lieux de mémoire sans collection. Et ça évoque aussi un peu ce que Verle von Dendelen évoquait hier sur Malines et le fait de montrer le vide, par exemple. Ça, c'était un des enjeux qui renvoie aussi à ce qui a pu être évoqué aujourd'hui autour de l'asymétrie, finalement, l'asymétrie documentaire pour documenter, pour présenter, exposer le patrimoine rom. Voilà, donc c'était une réflexion qui vient finalement un peu compléter. Donc je vois arriver maintenant Monsieur Jean-Marc Ayrault, que je remercie chaleureusement de sa présence, donc pour venir donner quelques mots de conclusion à ce colloque qui s'est tenu ces deux dernières journées. Monsieur Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui va nous donner quelques mots un petit peu pour de perspective, peut-être, pour que ce colloque donc, qui s'est tenu ces deux derniers jours puisse semer quelques graines pour le futur. Après votre intervention, je donnerai quelques précisions techniques sur le devenir, les traces qui seront laissées de ces deux journées de colloque. Merci.
Merci beaucoup de m'inviter à prendre la parole et puis de saluer tous les participants et participantes à votre colloque. Je n'étais pas présent personnellement, mais Dominique Taffin, la directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, a participé, m'a raconté la richesse des débats et l'intensité de la participation, et j'en suis très heureux. Vous avez vous-même rappelé qu'il y a 70 ans, dans ces murs, en tout cas à distance, s'ouvrait l'exposition coloniale internationale, l'apogée était la colonisation française, et pourtant derrière cette façade grandiose, déjà, on peut dire que le bel édifice se lézardait. La résistance des colonisés, les campagnes de presse contre le travail forcé, la révolte des intellectuels et des artistes montraient à qui savait observer que cet ordre était déjà condamné. Et la Porte Dorée, c'est l'héritière de tout ça. Du souvenir de l'Empire, mais aussi de sa contestation, de ses crimes, de l'empreinte qu'il a laissée. Il est porteur de cette histoire, ce musée de la Porte Dorée, et aujourd'hui, musée national de l'histoire de l'immigration, il est chargé de transmettre l'histoire, mais aussi de lui donner sens, de montrer comment elle résonne avec les questions contemporaines parmi les plus sensibles. Voilà pourquoi il est très symbolique d'organiser ce colloque. Vous l'avez intitulé « Exposer le racisme et l'antisémitisme ». Et encore merci à vous, Papendia, et non seulement d'avoir mené à bien cette initiative, mais de nous avoir associé la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, que vous connaissez bien, puisque vous êtes membre de son conseil scientifique. C'est donc un défi que vous avez relevé. C'est un défi pour tous les professionnels des musées, pour les conservateurs, pour les commissaires, pour les médiateurs. Et en France, tout particulièrement, les sujets dits de société ne sont entrés que très récemment dans les musées. Dans notre pays, c'est plutôt à travers l'écrit ou les formations qu'on a tendance à traiter ces sujets, plutôt qu'à travers le patrimoine, les arts et la culture. Pourtant, à mes yeux, il n'est plus possible aujourd'hui pour les musées, et plus généralement pour les institutions patrimoniales, comme les archives, les sites de mémoire, d'esquiver ces questions socialement vives, comme on les appelle dans le jargon de l'éducation nationale. Elles surgissent dans le musée de multiples manières, par la parole des personnes directement concernées, qui n'acceptent plus d'être des objets d'exposition ou des modèles muets, par la réinterrogation des cartels, des collections, mais aussi par la violence, parfois, quand les monuments ou les œuvres sont profanés, dégradés, voire détruits. C'est à tout cela que les musées sont confrontés, et nous le savons bien, à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, car la mémoire de l'esclavage est précisément l'une de ces questions sensibles. Car l'esclavage colonial convoque non seulement la réalité abjecte du commerce et de l'exploitation des êtres humains, mais également les préjugés que ce système a contribué à implanter dans nos sociétés contemporaines. En Europe, lorsqu'on remonte aux sources du racisme contre les personnes noires, c'est toujours à l'esclavage qu'on remonte. Et face à cet enjeu, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a fait du travail sur la culture et le patrimoine un axe majeur. Dès 2017, quand elle n'était encore qu'en préfiguration, le premier événement que nous avons organisé a été les rencontres patrimoine déchaîné au musée d'Orsay en marge de la grande exposition Le modèle noir, dont le succès est lui-même un signe de l'intérêt suscité par ces nouvelles approches. Vous étiez vous-même un des commissaires conseillers de cette exposition au Pape Ndiaye. Et sur les bases de ce travail fondateur que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage construit aujourd'hui sa réflexion à travers son conseil scientifique et surtout le réseau que nous avons créé depuis, Patrimoine déchaîné, et qui va se réunir prochainement. Le cœur du sujet, c'est la définition du musée du XXIe siècle. Ce questionnement, il a débuté dans les années 70, mais il est longtemps resté marginal, cantonné à une certaine catégorie de musées, les musées dits de société, et aujourd'hui, aucun musée n'est épargné, y compris les temples de l'histoire de l'art. Ce mouvement n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet inversé des décennies de silence et d'évitement dont ces lieux prestigieux ont été les acteurs involontaires. Pour y répondre, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui n'est pas un musée, le fait à sa manière, en mettant les gens ensemble, en les faisant dialoguer, pour mettre en commun leurs expériences. C'est l'objet du webinaire organisé le 28 avril dernier, notre première action depuis le colloque préfigurateur de mai 2019, en permettant le débat à partir des expériences croisées de 4 musées différents. Les difficultés et les enjeux pour parler de l'esclavage ont été abordés. Le choix du vocabulaire, la narration retenue, la question de la légitimité et de l'autorité de l'institution qui parle et des personnes qui, au sein de l'institution, conçoivent le discours, la capacité de faire entendre plusieurs voix à l'intérieur de l'institution et autour d'elle. Ce sont des questions que vous avez abordées également ces derniers jours, à travers des exemples concrets pour en relever les réussites et les échecs, les débats suscités et les questions qui restent bien sûr ouvertes. L'un des points importants qui ressort de vos travaux est celui-ci. Tout comme il est impossible aujourd'hui de penser le racisme, et notamment le racisme contre les personnes noires sans remonter à l'esclavage et à la colonisation, il est impossible de penser le racisme et plus encore de l'exposer sans traiter également de l'antisémitisme. Car parmi les multiples facteurs de division au sein de notre société, l'un des plus pervers est certainement la mise en concurrence des mémoires, alors que l'objectif de toute politique mémorielle dans un cadre démocratique est au contraire la convergence des mémoires. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage y travaille en associant à nos instances des spécialistes de l'histoire et de la mémoire de la Shoah et de l'antisémitisme. Après les manifestations autour de la mort de George Floyd l'année dernière, la question du racisme anti-noir a ressurgi dans l'actualité avec une particulière intensité. Certains l'ont alors présenté comme le fruit éphémère d'une bulle médiatique ou de l'importation de concepts et de situations venues d'Amérique ou d'ailleurs. Ce qui me frappe, au contraire, c'est qu'elle plonge, au contraire, ses racines dans notre propre société, dans notre propre histoire, dans les questions mal résolues que nous ont laissées ces transformations profondes avec les migrations et les décolonisations. Nous peinons encore à prendre toute la mesure de ce bouleversement, et plus encore à le faire partager au plus grand nombre. Les représentations dans l'espace public n'ont pas été ajustées à temps. Le discours sur ces transformations ne s'est pas articulé avec suffisamment de clairvoyance. Et en dehors du monde de la recherche, il a été confisqué par ceux qui refusent justement de le reconnaître en prenant une image figée, une identité uniforme, des racines uniques. Ou alors il est instrumentalisé par ceux qui défendent une vision essentialiste de l'identité, nourrie de concurrence mémorielle et de revendications racialistes. Notre histoire nous démontre au contraire les mensonges de l'idéologie des races et les impasses de l'universalisme dévoyé du colonialisme. Elle nous raconte les hybridations et les créolisations, les passerelles et les chemins poursuivis ensemble, les souffrances et les crimes, mais aussi les combats menés pour faire triompher les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité qui doivent justement nous rassembler. Et c'est là où je me réjouis de voir une collaboration se nouer entre nos deux institutions, cher Papendia, et nous en avons déjà parlé il y a quelques semaines. Je suis sensible aux gestes que vous avez faits en me proposant de conclure le premier colloque tenu au Palais de la Porte Dorée sous votre direction, car il témoigne de l'importance que vous attachez vous aussi à la construction d'un partenariat solide et approfondi entre nos deux institutions. Dans cet esprit, vous avez posé un geste très important dès votre arrivée, en faisant en sorte que dans son nouveau projet scientifique et culturel et dans son parcours permanent, le musée prenne désormais en compte les migrations forcées dans l'espace colonial français qui sont à l'origine de la première forme industrielle d'exploitation humaine. Je veux parler bien sûr de la traite et de l'esclavage colonial. C'est ainsi que nous ferons comprendre comment la colonisation n'a pas seulement changé les sociétés colonisées, mais aussi les sociétés colonisatrices, en les forçant à s'interroger sur le sens qu'elles attachent à l'universalisme qu'elles professent et en les mettant à l'épreuve d'appliquer ces valeurs, y compris aux populations qu'elles dominaient. C'est de cette tension qu'est né le véritable universalisme, celui dont parlait Césaire dans un texte fameux que je cite, enfin j'en cite un extrait. « Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier, ou par dilution dans l'universel. Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. C'est en réalisant ce projet qu'on expulsera le racisme et l'antisémitisme de nos sociétés, et c'est de ce projet dont vous avez débattu ces deux derniers jours pour faire de la culture et du patrimoine des instruments de citoyenneté, des vecteurs de fraternité. Ce projet est aussi le nôtre à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Encore une fois, je me réjouis que nous nous retrouvions autour de cette belle ambition et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous souhaite encore une fois bon travail parce que je sais que ce que cela exige d'investissement de vous tous et de vous toutes et j'espère avoir l'occasion de poursuivre cet échange, ce début de dialogue entre nous.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marc Ayrault. Pape Ndiaye, effectivement, que je représente ici, aura effectivement tout ce message. Je vais conclure très rapidement maintenant le colloque simplement pour évoquer ce qui va en rester, c'est-à-dire à la fois donc la mise en ligne prochainement, donc d'ici quelques semaines, par le service audiovisuel de la Fondation pour la même Fondation, pardon, de la Maison des Sciences de l'Homme, donc la FMSH, donc va réaliser le montage de ce colloque. Donc vous serez informés par mail, hein, toutes les personnes qui se sont inscrites lors de ces deux journées, donc pour recevoir le montage, hein, et donc la version donc montée de ce colloque, et sera également disponible.
Si tu permets, je précise qu'il y aura plusieurs versions. Il y aura des versions longues et des versions courtes qui seront en ligne dans quelques mois.
Et donc, également sur la chaîne YouTube du Palais de la Porte Dorée. Et puis, également pour annoncer en septembre prochain, donc la publication du revue Hommes et Migrations, qui est la revue portée par le Musée national de l'histoire de l'immigration, qui portera donc la trace, je dirais, physique donc des actes de ce colloque, avec tout un ensemble de contributions des différents participants à ces deux journées. Voilà, donc je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Je remercie également tous les participants aux tables rondes de ces deux dernières journées. Je remercie également Régis Mérand, à qui on a coordonné, co-organisé ce colloque. Donc, je le remercie vraiment très sincèrement. Et donc, je remercie enfin évidemment le public qui a été attentif pendant ces deux journées par Zoom, ce qui est parfois une gageure, hein, de pouvoir tenir deux journées en colloque par Zoom. Donc, je vous remercie vraiment chaleureusement. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la suite, comme l'a aussi un peu annoncé Jean-Marc Ayrault, et également pour la suite, donc, à travers à la fois donc, la publication de Hommes et Migrations et les restitutions vidéo de ce colloque. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.